Aujourd'hui, séance Maroc, à partir, encore une fois, de deux interventions. Deux interventions qui tournent autour de questions de plurilinguisme et francophonie. Le Maroc, Daniel Rivet écrivait il y a une dizaine d'années, de l'opacité vertigineuse du Maroc, en disant à l'époque qu'il hésiterait à en faire l'histoire, à écrire une histoire du Maroc. Je crois que cette question d'opacité vertigineuse, elle peut se comprendre à la lumière de d'une pluralité de codes linguistiques qui recoupent, mais pas forcément en se superposant exactement, une pluralité de systèmes d'historicité, de régimes d'historicité, et je rajouterais peut-être aussi de régimes de spatialité. Pour dire les choses de façon peut-être plus claire et moins abstraite, c'est l'idée que derrière les clivages de langue, il y a aussi différentes manières de se représenter l'histoire du pays, mais aussi l'articulation entre passé, présent et avenir du pays. Et c'est la raison, et par ailleurs, un mot sur les spatialités, nous venons de vivre, Laura Aboïdar et moi-même, 4 ans au Maroc, et nous avons été un petit peu témoins d'une relation toute particulière que le Maroc entretient avec sa diaspora à travers le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et cette diaspora marocaine à l'extérieur doit être prise en compte dans ces régimes de spatialité, parce que ce sont des circulations qui s'organisent avec différents pays. Alors, en France, on a toujours un peu l'habitude de voir les choses dans un tête-à-tête, mais en réalité, on s'aperçoit que les choses sont bien plus complexes, qu'il y a une diaspora marocaine au Brésil, en Hollande, en Grande-Bretagne, en Israël, etc. Donc, pluralité de régimes d'historicité, de régimes de spatialité, de relations avec l'espace, et pluralité de registres linguistiques dans lesquels la francophonie tient une place spécifique. Donc, deux interventions qui sont un peu en miroir. Toria Fili, qui est maître de conférence à Lyon 2, elle me corrige, en littérature... Francophonie comparée, voilà. Et donc, qui est agrégée de français au Maroc, et une agrégation toute particulière, puisqu'elle suppose un parfait bilinguisme.
Parfait, je ne sais pas, mais un certain bilinguisme, on va dire.
Qui a participé à ce jury en arabe peut témoigner que du niveau d'exigence en langue arabe dans cette agrégation de français du Maroc, qui retrouve un petit peu des lieux connus, puisqu'elle a été lectrice d'arabe à l'ENS de Lyon il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si elle avait commencé à Fontenay.
J'ai commencé avec l'arrivée, la délocalisation de l'ENS ici en 2000, oui.
Voilà, donc elle était lectrice d'arabe en 2000, et puis donc toute cette année, elle est devenue maître de conférence à Lyon 2. Et puis donc Laura Aboïda, qui est donc linguiste de formation, phonéticienne, et puis qui par les hasards des choses s'est retrouvée au département de français langue étrangère de l'université de Saint-Étienne et qui vient ici surtout témoigner de son expérience en tant qu'attachée de coopération pour le français dans l'académie de Marrakech pendant 4 ans, donc de la rentrée 2007 à
2011.
Donc deux interventions qui vont d'une certaine manière se répondre. J'ai été un peu long, je vous laisse la parole.
Non, pas du tout. Et je te remercie pour cette introduction parce qu'elle me permet de dire aussi que ma réflexion en réalité ne fait que commencer et que j'espère que le débat me permettra aussi de la creuser. Je souhaiterais tout d'abord peut-être lever une ambiguïté dans le titre, parce que j'ai employé de manière un peu abusive le terme d'avant-garde. Et sans doute devrais-je essayer d'en expliciter les présupposés. Alors, en quoi est-ce que la notion d'avant-garde artistique se différencierait-elle d'un mouvement artistique, de n'importe quel mouvement artistique ou littéraire? Il y a là effectivement un mode d'organisation militaire qui est bien entendu lié au sens du mot avant-garde, donc d'un combat à mener, combat oedipien contre la vieille génération de créateurs, ou assaut contre des institutions artistiques, ou éradication des idées esthétiques périmées, ou encore un corps à corps avec les institutions politiques, ou guerre ouverte même à toute la société dans son ensemble. Donc l'avant-garde en tant que terme générique doit-elle être comprise comme une forme d'organisation qui permet d'unifier tous ces différents aspects? J'essaierai de voir dans quelle mesure cette notion est unificatrice. En arabe, en tout cas, la notion d'avant-garde qui se dit talia convoque exactement le même sens étymologique militaire qu'en français. Par opposition à arrière-garde, mu'akhira, terme en arabe qui dénote aussi un sens trivial sur lequel les arabisants n'hésitent pas à jouer. Alors, cette notion revêt une très grande ambiguïté, la même qu'en français d'ailleurs, et elle a donné lieu à plusieurs débats dans le monde arabe, dont l'un des plus célèbres est celui auquel avait participé l'écrivain et critique libanais Hussein Marwa, qui, dans les années 80, émet beaucoup de réticence sur l'utilisation du terme avant-garde pour ce qui concerne la littérature arabe. Il lui préfère celui de mouvement progressiste, par contre. Ce débat, pour ceux qui s'intéresseraient à son contenu, il est entièrement en arabe, mais il est reproduit en ligne sur le blog arabicblog.com. Et donc, il a été publié récemment, il a été publié en 2008. Pour ne pas entrer dans la polémique autour d'une notion somme toute très flottante, je préfère l'analyser, ou plutôt analyser les postures poétiques et politique, au travers desquelles une telle notion est revendiquée ou attribuée, a posteriori, pour désigner d'une manière un peu unificatrice et forcément très extensive un groupe d'intellectuels marocains qui ont choisi, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la langue française comme langue d'expression. Alors, il s'agirait d'examiner la manière dont s'effectue cette unification autour d'une notion, par quel discours théorique, par quelle pratique, par exemple, pour tenter d'évaluer ensuite les portées poétiques et politiques de cette notion et de ces pratiques. Pour circonscrire la réflexion dans les limites de cette communication, je me suis attachée à deux manifestations de cette notion d'avant-garde, en articulant à la fois la littérature au journalisme tel qu'il est pratiqué au Maroc. Cette articulation elle-même mériterait peut-être d'être explicitée, puisque, a priori, les deux sphères relèvent de procédures poétiques et rhétoriques qui devraient être distinctes. Or, force est de constater que les relations d'interdépendance, tantôt complices, tantôt conflictuelles, entre journalistes et littéraires, existent depuis l'avènement de ce qu'on appelle la civilisation du journal. Pour ce qui est du Maroc, où la presse écrite apparaît pour la première fois sous le protectorat et continue après l'indépendance avec une tendance nationaliste puis partisane, très marqué, le lien entre la figure du journaliste et celle de l'écrivain se manifeste à travers leur appartenance commune à ce qu'on appelle la culture de l'écrit, et donc représente ce qu'on appelle au sens très large des intellectuels. Si l'on considère la définition donnée par le penseur Mohamed Abd el-Jabri, à ce terme. Les intellectuels, dit-il, sont ceux qui savent et qui parlent. Ils parlent pour dire ce qu'ils savent, et notamment pour guider et orienter à une époque où la gouvernance est devenue un art du dire, une rhétorique, avant toute chose. Sans doute que cette définition, donc c'est la fin de la citation, relève un peu du sémantisme du mot intellectuel en arabe, qui se dit mothaqaf, et ne s'étend ni à tous les journalistes, ni à tous les écrivains, dans la mesure où ni les uns ni les autres n'ambitionnent une visée performative de leur discours, donc, qui est celle de guider et d'orienter. Je vais donc m'attacher à étudier cette figure de l'intellectuel, ou du mothaqaf pour être plus précise, au Maroc, à travers une volonté affichée de transformation à la fois poétique et politique, et autour d'un projet plus ou moins concerté, et cela dans deux périodes historiquement dynamiques que l'on désigne pour la première période d'année de plomb au Maroc et qui s'étend de la fin des années 60, c'est-à-dire avec l'avènement au trône de Hassan II, jusqu'à 1991 avec la fermeture de la prison de sinistre réputation Tazmamert. Et pour ce qui est de la deuxième période, c'est celle des mouvements sociaux actuels que vit le monde arabe, bien sûr, et donc qui relève de l'extrême contemporain. Je vais me limiter à un corpus très restreint, sans pour autant prétendre à une exhaustivité quelconque, qui est impossible dans les limites de cette communication. Mon corpus contiendra donc quelques extraits de la revue Souffle, et je parlerai aussi pour le deuxième corpus, c'est-à-dire celui de l'extrême contemporain, du magazine tel quel, et d'un recueil de nouvelles intitulé « Nouvelles du Maroc ». J'expliquerai par la suite pourquoi ce choix. Je présenterai d'abord chacun des deux corpus représentatifs d'un dynamisme culturel et politique à un moment saillant de l'histoire marocaine, et je tenterai d'indiquer les formations discursives qui le caractérisent, qui les accompagnent. Ensuite, j'essaierai d'évaluer les points de rupture et ou de continuité entre ces deux mouvements ou avant-gardes. On verra comment on pourrait décider de les appeler ou ne pas les appeler, et que l'on peut déceler à travers les textes. Alors, pour ce qui est de la revue Souffle, que l'on peut désormais consulter en ligne, et ce n'est pas par hasard, en allant simplement sur le site de la BNM, de la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque nationale du Maroc, du Royaume du Maroc, voilà. Ou alors, plus simplement, on peut y accéder aussi à travers le site personnel de Laroui, exactement, Labi. Donc de Labi. Donc il suffit de taper Labi Souffle et vous tomberez sur le corpus intégral de la revue Souffle et de son doublé en arabe Anfes. Voilà. Alors Kenza Sfrioui, qui est une jeune journaliste marocaine, a consacré une thèse de doctorat de plus de 1200 pages à la revue Souffle, thèse soutenue à la Sorbonne sous la direction de Jean-Louis Bacquès en 2010, sous le titre « La revue Souffle, espoir de révolution culturelle au Maroc ». Alors, elle présente ainsi cette revue. Elle dit ceci: « La revue Souffle, créée en 1966 par de jeunes poètes et artistes peintres, a été la tribune de l'avant-garde littéraire et culturelle au Maroc et a eu un rayonnement dans tout le Maghreb et le tiers-monde. Elle prônait la décolonisation de la culture à une époque de l'indépendance où l'indépendance était jugée inachevée et menacée par le néocolonialisme. Produite par des intellectuels de gauche, elle était aussi une tribune d'opposition qui, par le biais de la culture et des valeurs symboliques, constituait une réaction à la dictature traditionnaliste que la monarchie imposait. » Voilà donc comment cette journaliste, mais donc qui a consacré son doctorat à la revue Souffle, présente cette revue. Dès le premier numéro de la revue Souffle, qui s'affiche comme un manifeste, Abdallah Labi, donc directeur de publication de la revue, affirme la ligne éditoriale de la revue. Vous pouvez regarder, vous reporter à l'exemplier. Donc, Souffle, vous avez dans l'exemple numéro 1, dans le prologue, qui donc atteste d'une volonté de produire un numéro manifeste. Il dit « Les poètes qui ont signé les textes de ce numéro manifeste de la revue Souffle sont unanimement conscients qu'une telle publication est un acte de prise de position de leur part dans un moment où les problèmes de notre culture nationale ont atteint un degré extrême de tension. » Voilà, donc ce manifeste affirme une prise de conscience qui est liée à un contexte particulier. Il affirme une rupture poétique avec les littératures contemporaines de l'époque, jugées comme sclérosées, comme affligées d'une forme d'aristocratisme. Je vous demande de vous reporter au deuxième exemple. Et Labi évoque l'incapacité de la production actuelle, dit-il, à toucher le lecteur, à obtenir son adhésion ou à provoquer en lui une réflexion quelconque, un arrachement à son conditionnement social ou politique. Autrement dit, cette revue et ceux qui adhèrent se proposent justement de toucher le lecteur et donc d'obtenir son adhésion et de provoquer chez lui une réflexion et un arrachement de son conditionnement social et politique. Si ces critiques concernent la littérature écrite en arabe, celle qui est produite en français n'échappe pas non plus à la critique des auteurs qui publient dans la revue Souffle, et vous reporterez à l'exemple numéro 3 où il dit « La littérature maghrébine d'expression française qui avait fait naître en son temps beaucoup d'espoir piétine à l'heure actuelle, etc. » Donc, il affirme une rupture avec cette littérature d'expression française aussi qui serait, selon lui, dépassée. Alors, même s'il reconnaît que certains des poètes et des écrivains qui, dit-il, crient ici, en l'occurrence dans la revue Souffle, n'ont pas échappé aux écartèlements de leurs aînés. Donc, la revue Souffle s'affirme également, enfin, comme le terreau de commenceurs et comme témoin et acteur de pointe. Alors, dans tout le prologue, Labi file la métaphore du cri et de la révolte, et dans un dépassement des complexes liés à l'appartenance au tiers-monde. Parmi les premiers signataires de ce premier volume de Souffle, il y a bien entendu les poètes Khairdin et Mustapha Nesabouri, poètes marocains, en plus de Labi lui-même. Vous avez dans l'exemplier quelques extraits de cette poésie où vous ne manquerez pas de remarquer justement cette poétique du cri qui traverse les textes. Pour Khairdin, le Simoun ne daigne pas réviser ma haine pour qui je parle de transmutation en transe. Dans la seconde section intitulée « Mémorandum » et qui se rappelle sans doute des émeutes écrasées de 1965, « Je t'abjure, tu gerces les aisselles de ce peuple, terre des cris droits en harpon très émeutière », etc. Sur le verso, Abdellatif Labi, « À la poubelle poème, à la poubelle rythme, à la poubelle silence ». Plus loin, toujours Labi dans Marasme, « J'accuse encore et moi-même d'abord d'être votre animal sociable, votre vache à petit lait », etc. Donc, si les trois poètes se rejoignent dans cette veine contestataire d'un ordre considéré comme éculé, Khairdin est tout de même celui qui a poussé la subversion le plus loin, appelant à ce qu'il nommait lui-même une véritable guérilla linguistique. L'écriture de Khairdin se joue des conventions par la dislocation syntaxique, par la fréquence des phrases nominales, le jeu sur la polysémie, la polyphonie, les ruptures thématiques, tout cela entretient une certaine opacité dans la plupart des écrits de cet écrivain. Cette opacité masque toutefois à peine sa veine contestataire et blasphématoire. La revue Souffle donc devient très vite le symbole d'une mouvance révolutionnaire qui avait réussi à dépasser les frontières du marocaines pour réunir des voix du Sud. Jean Desjeux et Jacqueline Arnaud avaient salué le courage de cette, et la vigueur de cette revue. C'était devenu une espèce d'international littéraire suscitant des échanges et des correspondances entre Africains, entre Antillais. Daniel Buchmann, par exemple, y écrivait très souvent, des Européens également, avait réussi pendant 6 ans donc à créer une dynamique culturelle qui transcendait les frontières nationales. Alors, outre les poèmes publiés, il y avait également des recensions, des lectures, de nouvelles parutions. Par exemple, il a été fait un compte-rendu du Polygone étoilé de Katibi Yassine par Labi. Il y avait des réflexions sur le cinéma et la peinture. Abraham Sarfati collabore aussi à un numéro spécial consacré à la cause palestinienne en 1968. Il participe également d'une redéfinition de la notion de culture. Et puis, avec une réflexion sur la crise du Moyen-Orient. Donc, pour tout le monde arabe, également, la revue Souffle était devenue une référence. En 1968, par exemple, ils ont publié un texte manifeste du poète Adonis, traduit en français et publié auparavant dans le journal libanais L'Orient, une année auparavant. Et l'article qui parut donc dans le numéro 9 de la revue Souffle, premier semestre de 1968, est intitulé « Manifeste du 5 juin 1967 ». Il définit aussi le rôle de l'intellectuel arabe. Et il se situe lui-même en tant que... Enfin, Adonis se situe lui-même en tant que citoyen du monde, déjà à cette époque. Et il fait un portrait critique de l'intellectuel corrompu par le pouvoir. Donc nous sommes un peu dans ce qu'on appelle déjà l'ère du désenchantement dans le monde arabe après l'euphorie des indépendances. Il serait intéressant de citer tout l'article de ce manifeste, mais je ne vais en lire que quelques extraits. Il dit par exemple « Ce même arabe révolutionnaire critique, détruit, humilie, gouverne au nom de la révolution, mais la mesure de son pouvoir réside dans les mots et non dans la révolte. » Il déguise ses mots par les artifices de la prononciation et de la syntaxe et se figure aussitôt qu'il a transformé le monde. L'homme arabe, pensant fut-il poète ou peintre ou musicien ou philosophe ou écrivain ou professeur, voyez comment la figure de l'intellectuel induit toutes ses fonctions. Donc dans les 20 dernières années, un babélisme éclectique, mais par action ou par omission, par la parole ou par le silence, il a fait en sorte que son patrimoine soit aux mains des gouvernants. Il est responsable du fait que le parti est au-dessus de la patrie et du peuple, la croyance au-dessus de la vérité et de l'homme. Ce spectre que j'appelle pensée arabe contemporaine, je l'accuse, bien que j'en fasse partie, d'incapacité doublée d'incompétence. Bon, le procès est sans concession. Il souligne un problème toujours d'actualité d'ailleurs, celui du statut de l'intellectuel dans sa société, de ses prises de position, de ses allégeances. Cette évaluation du statut de l'intellectuel et donc de ses prises de position était menée dans tout ce qu'on appelait alors le tiers-monde. D'ailleurs, dans le numéro 9 de Souffle figurait aussi un article de René de Pestre, poète et écrivain haïtien, né en 1929, sur l'apport et les limites de la négritude. Donc, il y avait réellement une remise en question de ces grands récits, si j'ose les appeler ainsi. Voilà. Prise de conscience, autocritique, volonté de se rapprocher du peuple en multipliant les moyens d'expression, que ce soit par les langues, par l'art, par l'organisation d'expositions dans les rues. Donc, il y avait une réelle volonté de se rapprocher du peuple. L'évolution de la revue se fait de plus en plus nette, d'ailleurs, en passant des textes poétiques aux articles d'analyse. Et ensuite, par des textes traduits, au départ, tout était écrit en français ou traduit en français, à des textes publiés en arabe, voire en arabe dialectal marocain. Et ce, depuis, à partir du numéro 13-14, ou par exemple des poètes de langue arabe, comme Ben Salem Himmich, Ahmed Madini et Mustapha Nissaburi, donc participent par des écrits en arabe ou en dialectal marocain. Alors, le doublé arabophone de la revue Souffle, et qui lui s'appelle Enfes, donc c'est la traduction, paru en mai 71. Le dernier numéro de Enfes était celui de décembre 71, janvier 72. Il portait ce dernier numéro sur des problématiques culturelles, économiques et politiques, notamment le chômage, la gestion des banques nationales, les conditions des ouvriers marocains dans le secteur du phosphate et des textiles. Et il initiait pour la première fois une réflexion sur le statut du Sahara, déjà à l'époque, et la présence espagnole sur les terres sahraouies, sous le titre « Sahara ou la Nouvelle Palestine ». L'article signé Enfes, donc, qui porte sur le Sahara, appelait au droit à l'indépendance du peuple sahraoui. Dès lors, un véritable tournant se fait dans le groupe qui porte la revue Souffle et la revue Enfes. Donc la revue Souffle et plus encore Enfes deviennent très clairement le porte-parole des deux organisations politiques. Il est MM, littéralement en avant, qui est une organisation marxiste-léniniste et qui a été créée le 30 août 1970, et du mouvement le 23 mars, qui reprend bien entendu la date anniversaire des fameuses émeutes populaires de Casablanca du 23 mars 1965, matées dans le sang par le général Oufrir. Donc, le site d'ailleurs, si, pour ceux que cela intéresse, le site de Hillel MM se trouve sur Internet et sur même l'Internet marocain, donc souligne, en présentant cette organisation qui a été bien entendu complètement décimée et en plus dont les membres ont été emprisonnés, cette organisation est présentée de la manière suivante. Hillel MM a été la première force politique à défendre la cause sahraoui et la cause amazigh, donc celle des berbéristes. Hillel MM appelait à l'institutionnalisation du tamazirt, donc de la langue berbère marocaine. Enfin, en réalité, il y a plusieurs berbères, mais je n'entrerai pas dans le détail. Donc, en tant que langue nationale et officielle, à côté de la langue arabe, et donc de son utilisation dans l'administration. Bon, je passe. La censure de la revue Souffle et Enfes est décrétée dès lors que les propos deviennent de plus en plus, à la fois politiques, mais aussi arabisés. Les membres de Souffle sont arrêtés, d'autres dispersés, notamment Benjelloun, Khatibi, Kherdine, qui avaient déjà pris leur distance vis-à-vis de Souffle dès que ça se politisait de plus en plus. Interrogé par Kenzas Frioui, c'est la docteure, enfin, la personne qui a fait son doctorat sur Souffle, Abdelfattah Fakihani, donc, qui lui-même avait commencé sa carrière comme enseignant de français et qui est un ancien militant de gauche qui lui-même avait participé à cette mouvance. Donc, lorsqu'il a été interrogé par Kenzas Frioui sur ce qu'il pensait de ces deux revues, et il répond que la revue Enfes avait popularisé la critique économique, politique et culturelle sous un angle marxiste. La revue Souffle, d'avant 1970, c'était autre chose, dit-il. C'était en fait une revue littéraire de gauche et plutôt une revue de littérature protestataire. Donc nous voyons bien le clivage, le virage qu'avait pris la revue et son doublé à partir de là. La même Kenza Sfouleioui rapporte aussi, dans un article publié par le magazine Tel Quel, dont je parlerai tout à l'heure, en 2009, elle rapporte en disant « Aujourd'hui, la plupart des témoins déplorent que la répression ait brisé ce mouvement progressiste. » Et dans un entretien avec Abdelkader Lkta, qui lui-même avait participé à cette mouvance et par des articles, avait donc écrit aussi dans la revue Souffle, il dit que si le pouvoir n'avait pas enterré cette expérience-là, le Maroc aurait été maintenant totalement différent. Labi, par contre, considère que le message de Souffle n'a pas pour autant été éradiqué et que la revue aurait, selon lui, anticipé sur bien des débats qui agitent aujourd'hui même la scène nationale. Tout cela est publié dans la revue Tel Quel, donc, dont je parlerai très vite. Alors, les premiers signes d'un relâchement ne se sont tout de même pas fait attendre. Puisque, comment dirais-je, Hassan II avait commencé à donner un peu de liberté, une libéralisation relative des médias, dans un contexte où la multiplication des antennes paraboliques, la démocratisation aussi progressive de l'accès à Internet, puis la montée de l'islam fondamentaliste, contribuent à changer la donne de la politique marocaine. Donc, les intellectuels francophones, mais aussi arabophones, avaient un peu plus de liberté. Alors, tout en se voulant garante de l'unité nationale et paravent contre la montée de l'intégrisme, la monarchie arrive à assurer un certain équilibre en jouant le jeu d'un partage de pouvoir, jusqu'à un certain, enfin, dans une certaine mesure. Donc, d'ailleurs, l'une des preuves, c'est l'accès du Parti socialiste historique, l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, au pouvoir, avec la désignation de Youssefi comme Premier ministre en 1998. Alors, maintenant que j'ai présenté la revue Souffle, je passe immédiatement à la revue telle qu'elle